Le 5 février 1999, un de mes amis personnels a fait un rêve, disons, plutôt inattendu. Dans son rêve, il voyait le roi de Jordanie, le roi Hussein, qui vivait une situation difficile d'ordre spirituel. Il parlait avec des gens qui exerçaient dans l'occultisme. Et puis mon ami a vu dans son rêve le roi de Jordanie être étouffé par un python, un serpent. Mon ami n'avait jamais eu à penser au roi de Jordanie. Ce n'était pas un sujet de réflexion chez lui. Ça arrivait de nulle part, d'un rêve qu'il n'avait jamais... Il n'avait pas pensé à ça. Et puis, il a reçu ça le 5 février 1999. 48 heures plus tard, après avoir reçu son rêve, soit le 7 février 1999, tous les médias annonçaient la mort du roi Hussein, le roi de Jordanie. Lorsque j'étais adolescent, jeune adolescent, un soir, je suis allé me coucher et après avoir finalement sombré dans le sommeil, j'ai fait un songe. Et alors que j'étais couché dans mon rêve, j'entendais du bruit au premier étage de notre maison victorienne dans laquelle on habitait à Magog. Et dans mon rêve, alors que j'entendais du bruit en bas, je me suis levé dans mon rêve et j'ai descendu en bas au premier étage et j'ai remarqué que la lumière était allumée dans le bureau de travail à mon père. Et lorsque je suis arrivé dans son bureau, il y avait le carnet de banque de caisse de mes parents qui flottait dans les airs. Et lorsque je suis rentré dans le bureau, le carnet de banque qui flottait est revenu sur le bureau. Ne comprenant pas exactement ce qui se passait, dans mon rêve, j'ai fermé la lumière. Et je suis remonté me coucher dans mon rêve. Finalement, j'entends encore du bruit en bas, au premier étage, quelques instants plus tard, dans mon rêve, toujours. Et je décide de descendre. J'étais jeune adolescent, n'oubliez pas. Je descends les escaliers et je me rends compte que la lumière du bureau à mon père est encore allumée. Et finalement, je m'en vais dans le bureau et le carnet de banque à mes parents flotte encore dans les airs. Et cette fois-ci, je ramasse le carnet de banque et je regarde à l'intérieur du carnet de banque et je vois et je pouvais lire dans le folio ou le numéro de l'identification du compte, il est écrit « Saint-Esprit ». Le lendemain matin, je me réveille, me rappelle très bien du rêve que j'avais fait, que j'étais descendu, j'étais remonté, etc. Et mes parents étaient dans le bureau en question où j'avais vu les choses se passer dans mon rêve. Et je descends, mes parents étaient en train de discuter, et alors que je m'assois au bureau, je commence à expliquer à mes parents ce que j'avais rêvé. Comme un jeune adolescent peut l'expliquer, j'ai rêvé à telle chose, c'était bizarre et tout. Mais je ne savais pas à ce moment-là que ma famille, que mes parents vivaient une situation financière très précaire. Et mes parents ont vraiment eu une réponse à leur prière au travers du songe que Dieu m'avait donné. Moi, je ne savais pas que c'était un songe, mais Dieu m'avait parlé. Vous est-il déjà arrivé d'avoir un rêve, une vision de la part de Dieu ou une révélation quelconque? Vous est-il déjà arrivé que Dieu vous parle concrètement et sans équivoque? Qu'avez-vous fait avec cette révélation, avec ce rêve, ou peu importe ce que vous avez reçu de la part de Dieu? Est-ce que vos actions, suite à ce rêve, ou suite après avoir reçu cette révélation-là de Dieu, ont contribué à l'avancement du royaume de Dieu, ou ont-elles, au contraire, mal tourné, et cela a contribué à faire émerger vraiment des tensions avec les gens qui étaient concernés par le rêve? Ce matin, dans le cadre de notre série intitulée « Comment être saisi » ce ne sera pas long, je vais régler la question. « Comment être saisi par le Saint-Esprit en 2009 », j'aimerais répondre à des questions très simples, mais combien importantes. Écoutez bien ceci. Que faire lorsque Dieu nous parle? Que faire lorsque Dieu nous communique une révélation par le biais d'un rêve, d'une vision, d'une parole audible, d'une voix claire dans notre esprit, ou tout simplement lorsqu'il nous communique sa volonté par sa parole de façon très claire? Comment réagir lorsque Dieu nous révèle une de ses pensées sur une situation bien particulière? Peut-être vous dites, pourquoi adresser ce sujet-là ce matin, pasteur Benoît? Pour plusieurs raisons, et des bonnes raisons, je crois. Premièrement, parce que je crois qu'encore aujourd'hui, en 2009, Dieu parle. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Ça peut être un miracle, comme disait Denis, ou disait Armel, et qu'il en soit ainsi. Et je prie que ça puisse se multiplier dans cette Église. Mais alors que Dieu parle, je crois qu'on doit apprendre à gérer les révélations qu'il nous donne, ce qui n'est pas toujours si évident que ça. Une autre raison pourquoi je pense qu'on devrait toucher ce sujet-là ce matin, c'est parce que je crois que beaucoup de gens qui ont eu des révélations de Dieu ont malheureusement fait beaucoup de tort autour d'eux, bien que ce n'était pas leur désir. Une autre raison que je crois qu'on doit parler de comment gérer les révélations de Dieu, c'est parce que je crois que des centaines d'églises ont été déstabilisées, ont été brisées, blessées et même ont fermé parce que les gens ont mal géré les révélations qu'ils avaient vraiment reçues de Dieu. Une autre raison pour laquelle on doit parler de ce sujet-là, c'est parce que je crois que beaucoup de gens n'ont jamais entendu aucun message sur ce sujet, des révélations de Dieu. Et pour ma part, j'aurais aimé, étant jeune, entendre un message comme vous allez entendre ce matin, pour m'aider à mieux gérer les révélations que je reçois de la part du Seigneur, mais aussi à m'aider à mieux encadrer les gens autour de moi qui reçoivent aussi des révélations, des fois pour la première fois. Donc ce matin, j'aimerais simplement prendre, dans un premier temps, partager avec vous un processus très simple, mais très efficace pour gérer les révélations que vous pouvez recevoir de la part de Dieu. Il y a peut-être des gens ici ce matin, vous avez reçu une révélation de Dieu dernièrement. Dieu vous a parlé, mais vous ne comprenez pas encore à quoi ça consiste, qu'est-ce qui se passe exactement. Peut-être des gens aussi, vous avez vécu des expériences, vous avez reçu une parole de la part du Seigneur, mais ça a tourné au cafouillis par la suite lorsqu'il était question de l'application de tout ça. Donc, j'aimerais qu'on puisse voir un processus pour vous aider à gérer les révélations de Dieu. Et par la suite, dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on puisse tourner notre attention vers un exemple biblique afin de voir le processus en action concrètement, mais dans un contexte biblique. Ça vous va? Good. Je suis content que vous soyez d'accord parce que c'est ce que j'avais sur mes notes. Le processus est très simple, frères et sœurs. Révélation, interprétation et application. Révélation, interprétation et application. Commençons avec le premier qui est révélation. La révélation, ce n'est pas compliqué, c'est les données brutes. C'est ce que nous recevons de la part de Dieu. C'est les données brutes de la communication divine. Ça peut être un verset des Écritures qui devient un réma, c'est-à-dire une révélation vivante. C'est comme si un verset qui sort des Écritures. Ça peut être une parole claire dans notre esprit. Ça peut être une voix audible qu'on peut entendre. Des fois, l'Esprit de Dieu parle de façon audible. Ça peut être une conviction très claire dans votre esprit. Ça peut être par un rêve, par un songe, par une vision. Mais la vraie bénédiction de Dieu, la vraie révélation de Dieu, je devrais dire, écoutez bien ceci, est toujours bonne. Les données brutes, ce qu'on reçoit de Dieu, lorsqu'on ne l'imagine pas, lorsqu'on ne fabule pas, lorsqu'on reçoit vraiment quelque chose de la part de Dieu, c'est toujours bon. Que sont ceux qui sont d'accord avec moi pour dire que Dieu ne se trompe pas? Il ne se trompe pas. La révélation, la vraie révélation de Dieu est toujours bonne. Voici ce que je vous encourage lorsque vous avez une révélation de la part du Seigneur. Le plus tôt possible, prenez-la en note. Avec tout ce que vous avez reçu, avec les détails, tout ce que vous êtes capable de prendre en note. Car la mémoire est une faculté qui a tendance à déformer les choses avec le temps. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? La meilleure place où vous pouvez voir ça, là, c'est quand un couple sont en train de jaser avec d'autres couples, puis là, il y a un des deux, c'est le mari, il veut commencer. Hey, oui! D'autres, il nous est arrivé telle chose. Puis là, on était sortis. Puis là, la femme a dit, non, ça ne s'est pas passé là, on n'était pas là. C'était pas telle journée, non. Non, mais c'était le mardi, non, c'était le mercredi. Non, c'était le matin, non, c'était le soir. Regarde, tu te souviens-tu, c'était... Vous vous rappelez de ça, de ce genre de situation-là? Puis à un moment donné, là, à l'intérieur, la seule chose qu'on aurait goût de dire, c'est correct, là. Regarde, peu importe, là, on veut juste savoir l'histoire, là. Quel est le point là-dedans? C'est que la mémoire a tendance à déformer. On a tendance à oublier. Si Dieu vous donne des paroles, prenez-la par écrit. Écrivez-la. Si Dieu vous donne une révélation, écrivez-la le plus tôt possible. Parce qu'on a tendance à déformer avec le temps. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens faisaient dans l'Ancien Testament. On peut lire que le Seigneur a dit lui-même, « L'Éternel m'adressait la parole à Habacuc, et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Il va dire à Jérémie, « Prends un livre, et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda. » Donc, on rend grâce au Seigneur lorsqu'un jour des hommes et des femmes ont écrit la parole de Dieu. Mais attention ici, je ne suis pas en train de dire que les révélations que vous recevez de la parole de Dieu vont rentrer en compétition avec ce livre-là. La révélation de la parole de Dieu est complète. Elle est complète. Mais Dieu parle encore aujourd'hui pour des situations bien particulières, mais ça va toujours être soumis à ce livre-là. Et on peut évaluer les révélations qu'on reçoit de Dieu pour savoir si elles sont conformes, si elles viennent vraiment de Dieu par ce livre. Et tout le monde dit « Amen ». OK? Ça, c'est notre référence. Et elle est complète, on n'a pas à y ajouter, mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ça demande notre référence. Laissez-moi vous donner un exemple d'une révélation. Vous vous couchez un soir et vous recevez un rêve de la part du Seigneur, votre rêve, dans votre rêve, vous voyez qu'il y a une personne dans l'Église qui est mal intentionnée et qui commet des actions particulières dans l'Église. Et vous voyez ça dans votre rêve. C'est une révélation que vous recevez de Dieu. Vous n'avez pas arrangé le rêve, c'est un rêve qui est venu comme ça. Que faire avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec un rêve de ce genre-là? Mon premier conseil pour vous et votre premier réflexe devrait être celui-ci. La première action que vous devriez faire, c'est de prier. De prier à ce sujet. De prendre la révélation que vous avez reçue, si c'est une révélation, premièrement, et de l'apporter à Dieu dans la prière. C'est la première étape. Faites jamais rien sans avoir prié avant d'avoir demandé le conseil de Dieu. Je crois que toute révélation de Dieu doit être accompagnée de prières et d'intercessions. Je crois même que Dieu parfois donne des révélations, comme mon ami personnel qui a eu un rêve sur le roi de Jordanie. Je ne crois pas qu'il était appelé à prendre l'avion pour aller voir le roi de Jordanie, mais il était appelé à prier pour cette situation-là et pour être à l'écoute de Dieu, de ce que Dieu voulait communiquer au travers de ce rêve qu'il avait eu. La première étape qu'on devrait avoir lorsqu'on reçoit une révélation, c'est de la prendre par écrit et de l'amener devant le Seigneur. Donc, révélation. Lorsque nous recevons une vraie révélation de Dieu, elle est toujours bonne. Elle est toujours bonne. Les données brutes sont toujours les bonnes. Et lorsque nous recevons une révélation, notre premier réflexe devrait toujours de le prendre par écrit et de se tourner vers Dieu dans la prière. Vous savez, le fait de recevoir une bénédiction, une révélation de la part de Dieu, ce n'est pas très compliqué. On la reçoit tout simplement malgré nous, n'est-ce pas? Pour ceux qui l'ont déjà expérimenté. Mais c'est à la deuxième étape que ça commence à se compliquer. Et c'est là que beaucoup de gens ont tendance à, je crois, faire fausse route. Et la deuxième étape, c'est l'interprétation. L'interprétation, frères et sœurs, lorsqu'on reçoit une révélation de la part du Seigneur, on la reçoit, on la prend par écrit, on l'amène dans la prière afin d'être en mesure de bien l'interpréter. Et l'interprétation, ça répond à la question, qu'est-ce que ça signifie exactement, ce rêve, cette parole? Je vais vous donner un exemple concret que j'ai lu dernièrement. Pendant une réunion d'église publique, un frère a reçu une révélation particulière pour un autre homme qui participait à la réunion. Le frère a déclaré ceci à l'homme pour qui il avait une révélation. « Vous avez un ministère musical. Vous êtes appelé à être un chanteur. » Après avoir interrogé le frère en question sur sa soi-disant révélation, l'homme a commencé à expliquer qu'il avait vu des notes de musique qui tournaient autour de la personne. Donc, le frère avait conclu que l'homme était assurément un musicien ou appelé à le devenir, alors que l'homme en question était tout simplement un propriétaire d'un magasin de musique. Et lorsque le frère qui avait eu la révélation a été questionné, a été un petit peu remis en question, il a répondu ceci. Et comment est-ce que j'étais censé savoir que c'était un propriétaire d'un magasin de musique? Le frère avait manqué au niveau de l'interprétation de la révélation. Quels sont ceux et celles qui sont d'accord avec moi pour dire qu'il avait vraiment vu quelque chose, parce qu'il y avait quelque chose par rapport à la musique chez cet homme-là, mais il avait manqué au niveau de l'interprétation. Les notes de musique étaient là, il n'y a aucun doute. La révélation est bonne, elle est toujours bonne. On invente, en tout cas, moi, personnellement, je suis un musicien et je n'ai jamais regardé quelqu'un puis je voyais les notes de musique tourner autour d'elle. Ça ne m'est pas arrivé encore. Quoique des fois, quand je regarde ma femme, c'est quasiment ça qui arrive. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais si j'avais été à la place de... Je vais y revenir. Okay. Mais notre frère ici, qui avait vu les notes de musique, avait manqué au niveau de l'interprétation. La deuxième étape, l'interprétation de la révélation. J'aimerais vous encourager à une chose, frères et sœurs. La journée, peut-être que vous avez déjà eu des révélations de Dieu, peut-être que vous allez en avoir suite à ce message. Laissez-moi vous dire ceci et retenez ça. Ne faites jamais de suppositions à propos d'une révélation qui vient de Dieu. Ne dites jamais « je suppose que Dieu veut dire que, voulait dire que ». Faites bien attention. Bien souvent, les révélations de Dieu sont allégoriques, symboliques. On ne comprend pas tout sur le coup. Et par la suite, lorsque les événements s'accomplissent, on vient de comprendre, on comprend tout le sens. Et on va voir un petit peu plus loin ce matin avec notre exemple biblique, justement un exemple d'une révélation symbolique vraiment particulière. Mon ami qui a eu une révélation, un rêve sur le roi de Jordanie, c'était un peu symbolique. Le python qui venait étouffer le roi de Jordanie, c'est assez particulier quand même. Mais il a compris seulement 2 jours plus tard, lorsque le roi, on a appris qu'il était mort. Quand il est question d'interpréter une révélation, c'est important de ne pas faire des suppositions. Tant que Dieu ne nous parle pas clairement, on ne bouge pas. On attend que Dieu nous révèle la signification de ce qu'il nous a communiqué. Et ne vous crispez pas sur votre propre interprétation des révélations, parce que sinon, ça va mal tourner, je vous le garantis. Vous allez blesser, vous allez briser, vous allez défaire autour de vous. Vous savez, les révélations de Dieu peuvent être à la fois extraordinaires, des tremplins pour les gens, une bénédiction, ça peut être quelque chose qui peut bouleverser leur vie à tout jamais, mais aussi une parole qui est amenée tout croche, qui est mal interprétée et qui est amenée de la mauvaise façon au mauvais moment, peut causer le chaos dans la vie des gens. Il faut être très prudent et je crois qu'on est appelé à honorer Christ dans notre façon de gérer les révélations qu'il nous donne. Donc, ce qui éveille le processus, c'est la révélation. Un jour, Dieu nous donne une révélation très claire. Et la révélation est toujours bonne. Elle est claire. Prenez-la par écrit. Prenez-la et après ça, amenez-la dans la prière. Et deuxièmement, vient l'interprétation par le biais de la prière, de l'écoute. Et finalement, on doit en arriver à la troisième étape. Et c'est là que beaucoup de gens trébuchent. C'est lorsqu'il s'agit d'appliquer la révélation. Donc, l'application. L'application, c'est l'action. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais l'application est fondée sur l'interprétation qu'on en a fait. Il y a des gens qui reçoivent une révélation de Dieu, un rêve, une parole, quelque chose, ils vont sauter directement à l'application sans prendre le temps d'interpréter, savoir « qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, Seigneur? » Il y a des gens qui vont avoir un rêve ou un songe, puis vont aller voir la personne directement, alors que peut-être Dieu ne veut même pas que vous alliez la voir. La seule chose que Dieu veut que vous fassiez, c'est prier et intercéder. Et que jamais vous allez la voir, jamais vous allez avoir l'opportunité de dire à la personne, j'avais rêvé sur cette situation-là et je priais pour toi. Le Seigneur peut-être va vous dire, non, tu gardes ça pour toi, c'est entre moi et toi. La seule chose, c'est que je veux qu'on collabore ensemble et je veux que tu pries, tu intercèdes à ce sujet-là. Donc, l'application. Une note de musique de notre frère tantôt qui avait vu les notes de musique, au lieu de tomber tout de suite aux conclusions et de dire, tu es un musicien, tu es appelé à un ministère musical, il aurait dû prendre le temps d'interpréter avant d'appliquer. Il aurait pu tout simplement tester le tout sous forme de questions. S'il sentait qu'il devait en parler, il aurait pu faire quelque chose de ce genre-là. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Si je voyais quelqu'un à l'hôtel ici, alors que je prie pour quelqu'un, je vois des notes de musique tourner autour d'elle, je ne commencerais pas à faire des suppositions, à dire « tu es un musicien, tu es ici, tu as ça ». Ce que je dirais tout simplement, c'est « est-ce qu'il serait possible que tu aies un lien avec la musique par hasard ?» Là, je vois les notes qui tournent. Okay? Je m'y mets dans la situation un petit peu. Là. Puis la personne, assurément, qu'elle dirait « oui, je suis propriétaire de magasin de musique ». OK. Et là, je resterai à l'écoute de ce que le Seigneur veut dire. Ça m'est arrivé une fois lorsque j'étais à la maison que ça avait sonné à la porte. C'était quelqu'un qui voulait vendre des barres de chocolat et puis pour aller faire un voyage en France. Et puis, lorsqu'il a cogné, je lui ai demandé d'entrer. Et alors que j'étais en train de chercher pour mon argent, je commence à lui demander son nom. Il me donne son nom. Puis, je commence à avoir des paroles de la part du Seigneur pour la personne en question. Fait que je lui dis, c'était très clair, ça disait musicien dans mon esprit. Je lui dis, est-ce que tu es musicien? Il dit, oui, je suis musicien, je suis un batteur, je joue la batterie, tout ça, dans un groupe. Ah, OK, on échange un peu. À un moment donné, occultisme. Je dis, est-ce que tu as touché aux choses occultes par hasard? Il dit, oui, comment ça, tu sais ça? Ah, juste comme ça. Puis là, je continue. Puis là, après ça, j'ai d'autres paroles qui venaient de la part du Seigneur, comme ça. Mais j'y allais sous forme de questions. Lui, il n'a jamais su. Je n'ai pas dit, ainsi parle l'Éternel. Et je vais revenir tantôt. Juste par question, des questions, parce que je sentais que là, mon application était, il est là, là. Je ne commencerai pas à aller prier en bas, prendre en note mes révélations pour la situation, c'était pour la situation immédiate. Vous me suivez? Et là, ça s'est continué. Et puis finalement, vraiment, j'ai eu des paroles sur sa vie. Ce jeune homme-là avait un appel au ministère. Le Seigneur l'appelait à sortir des ténèbres, à sortir de ces choses-là. Et j'ai parlé vraiment de la part de Dieu. C'était un des moments forts de ma vie chrétienne dans le témoignage. Si le témoignage était toujours de cette façon-là, ça serait extraordinaire. Mais l'application répond à des questions très concrètes comme « Que dois-je faire exactement? » Quand on parle d'application, on a une révélation de Dieu, on l'a interprétée, puis là, c'est juste dire « Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je fais? » Je comprends le sens de la révélation, mais qu'est-ce que je fais avec? Quand dois-je faire ce que je dois faire? Attention à l'aspect de temps. En passant, que dois-je faire? Il se peut, écoutez bien ceci, que Dieu vous donne une révélation, et lorsque vient le temps d'interpréter, Dieu va vous donner le sens de l'interprétation, puis il va dire tout simplement, je te demande de prier et d'intercéder pour cette situation-là. Je ne veux même pas que tu en parles. Je veux que tu pries pour ton frère ou ta sœur qui vit une situation difficile. Prie. À ce moment-là, contentez-vous de faire ce que Dieu vous dit. Priez. Faites rien d'autre, même si ça peut être tentant. OK? Ne bougez pas, n'en parlez pas. Sinon, peut-être à une autorité spirituelle pour peut-être vous aider à voir plus clair là-dedans, mais commencez pas à aller courir à droite et à gauche pour le mentionner. Je vais en revenir dans quelques instants sur ce sujet-là. Donc, que dois-je faire avec la révélation? Quand dois-je le faire? Attention à l'aspect temps. Quelqu'un a déjà dit qu'on a toujours tendance à penser que Dieu ne va pas aussi vite qu'il devrait. Hein? Quelqu'un a déjà dit, ne vous mêlez pas aux personnes et aux paroles prophétiques, aux révélations de Dieu si vous n'êtes pas prêt à attendre que Dieu les accomplisse en son temps. Si vous voulez presser le processus de Dieu, oubliez ça. Il ne faut pas être pressé avec Dieu. Il faut faire les choses quand Dieu nous le dit. Troisièmement, troisième question qu'on peut se poser, c'est à qui dois-je partager la révélation et comment le faire? Et j'aimerais vous mettre en garde sur un danger qui nous guette tous. Et j'appelle ça l'exhibitionnisme spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui reçoivent une révélation de Dieu et ça les... la première chose qui vient dans leur esprit, c'est à qui je peux le dire pour bien paraître? Pour qu'ils sachent que c'est moi qui ai eu la révélation de Dieu pour la situation donnée, qu'ils veulent extérioriser ça absolument, ils veulent en parler, ils veulent avoir le crédit. Je vous en supplie. Le Saint-Esprit, on est dans une série sur la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit est une personne qu'on peut attrister. Passez pas de la révélation directement à l'application sans prendre le temps de vous soumettre au processus et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment je peux être un collaborer avec toi dans ce processus-là? On en a vu un exhibitionniste spirituel, et ça a mal tourné pour lui dans les Écritures. C'est Joseph qui reçoit des rêves de la part de Dieu, puis il va voir ses frères, puis il dit à ses frères, « Hey, les gars, les boys, écoutez bien celle-là! » Ma gerbe, là, elle restait debout, puis toutes vos gerbes ont plié. Ça n'a pas été trop long qu'il s'est ramassé dans une citerne, puis il s'est ramassé en Égypte. Le Seigneur, par contre, a tourné ça en bien pour lui. Mais ce n'est pas une raison pour commencer à faire de l'exhibitionnisme pour que ça puisse tourner à votre bien. À moins que vous vouliez vous retrouver dans une citerne, à être vendu comme esclave, après ça, d'être faussement accusé, d'être mis en prison, d'être oublié dans la prison. Si vous voulez vivre tout ça, là, ben faites de l'exhibitionnisme spirituel. Mais sinon, honorez Christ. Lorsqu'il vous donne une révélation, ne bougez pas tant qu'il ne vous donne pas de nouvelles indications. Soyez discret et honorez Christ dans votre manière de gérer les révélations qu'il vous confie. Okay? Donc, le processus, révélation, interprétation et application. En parlant des révélations divines de nature prophétique, Mike Bickle, dans son livre intitulé « Grandir dans le prophétique », soutient ceci, et j'ai trouvé ça très bon. Les problèmes dans l'Église qui sont dus au ministère prophétique, aux révélations de la part de Dieu, sont presque toujours provoqués non par des prophéties inexactes, mais par des interprétations et des applications présomptueuses. Les Églises ont besoin de prendre le temps d'apprendre à passer par le processus de gestion du ministère et de la révélation prophétique, car les bienfaits pour l'Église locale sont trop grands et les conséquences de passer outre sont trop graves. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire ici, on a besoin d'apprendre à mûrir et à bien gérer les révélations que Dieu nous donne, parce que l'Église en a besoin. Mais malheureusement, c'est au niveau de l'interprétation et de l'application où que les gens vont tout simplement trébucher. Donc, c'est le processus. Révélation, elle est toujours bonne. On doit la prendre en note, on doit prier à ce sujet-là. Après ça, on doit l'interpréter, savoir qu'est-ce que tu veux dire exactement, Seigneur. Je ne veux pas me tromper, je ne veux pas faire des suppositions. Et par la suite, qu'est-ce que je dois faire avec la révélation? À qui dois-je en parler? Quand dois-je en parler? De quelle façon dois-je en parler? Exactement. Et finalement, c'est ça, l'application. On va aller maintenant dans un exemple biblique. Pour terminer ce message, on va lire et analyser courtement un passage du livre des Actes. On va aller retrouver Corneille. Corneille était un homme qui était un non-juif, un centurion romain, c'est-à-dire un soldat romain qui était responsable de bien des soldats, de plus de 100 soldats. Et alors qu'il était en train de prier, un ange lui apparaît. Et Corneille voit l'ange, et là, il commence à avoir un échange, et l'ange dit à Corneille, « Envoie quelqu'un à Joppé. Il y a Simon-Pierre qui est là-bas. Va le faire chercher afin qu'il puisse venir, et lui, il va t'indiquer comment connaître le salut, comment être sauvé. » Et on va les rejoindre. Alors que les hommes, le centurion Corneille, envoie des gens, de ses serviteurs, des gens qui étaient proches de lui, un de ses serviteurs par contre, qui était très attaché à lui, il l'envoie vers Joppé pour aller chercher Simon-Pierre. On va aller rejoindre Simon-Pierre, que lui est à Joppé, puis il ne sait pas ce qui se passe, mais il va apprendre ce qui se passe dans le cadre de notre texte. Simon-Pierre s'en va sur le toit de la maison dans Actes 10, verset 9 à 16. Le lendemain, on va retrouver l'apôtre Pierre maintenant à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure, c'est-à-dire midi, pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Okay? Ici, c'est la révélation qu'il reçoit de Dieu. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la deuxième fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Quels sont ceux et celles qui sont d'accord pour dire que c'était toute une révélation? La nappe qui descend, les animaux. Ah ouais, Pierre, tu manges. Non, Seigneur, voyons, je ne mange pas les animaux impurs. Parce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas impur. Puis là, vous, là, je le sais, pour ceux qui connaissent un petit peu la parole, vous avez lu, vous savez ce qui s'en vient par la suite. Mais lui, là, il devait se poser des sérieuses questions. Lui, il a eu premièrement une vision, une nappe avec des animaux. Après ça, il a eu des paroles. Lève-toi, Pierre, tu manges. Et après ça, la deuxième fois, la parole lui a dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Donc, Pierre était certain d'avoir reçu une révélation de Dieu. Si ce midi, alors que vous retournez à la maison et que votre épouse est en train de préparer la nourriture, que vous êtes en train de prendre un temps de prière, puis qu'il y a une nappe qui descend avec des animaux de toute la terre qui sont dedans, et que vous entendez des voix, je veux juste vous dire tout de suite que c'est une révélation. OK? On est d'accord avec ça? Il reçoit la révélation. Mais là vient le temps de la deuxième étape, l'interprétation. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Puis ce qu'on voit, c'est vraiment intéressant. La révélation, n'oubliez pas, c'est les données brutes, sont toujours bonnes, viennent de la part de Dieu. Toutefois, ce que les gens font avec ces données-là, c'est là que ça se complique. L'interprétation. Pierre aurait pu dire, suite à cette révélation-là, « Ça y est, il faut que je change de régime. Ça y est, est-ce que Dieu veut que je mange différemment? » Est-ce que Dieu est en train de me dire qu'en tant que juif, je peux maintenant manger de tous les animaux, alors que pendant des siècles, certains animaux étaient impurs, ils n'avaient pas le droit de manger de ça? Est-ce que l'apôtre Pierre s'est dit, enfin, je vais pouvoir manger du bacon avec mes œufs le matin? Parce que les juifs ne mangent pas de cochon, de porc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce stade-là, ce qu'on remarque de l'apôtre Pierre et Luc, qui a écrit le livre des Actes, souligne le point suivant. C'est que Pierre ne comprend pas le sens de la vision. Il ne comprend pas c'est quoi le rapport de la nappe qui descend, qui monte, tu manges. Il ne comprend pas tout ce qui se passe. Mais écoutez bien ce que ça dit au verset 17 à 20. Ça dit, « Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, interprétation, l'Esprit lui dit, « Voici trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit du toit et il dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Ils répondirent, « Corneille, sans tenir homme juste et craignant Dieu et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Donc, Pierre est sur le toit. L'Esprit de Dieu lui dit, d'arrêter de réfléchir sur la révélation, il essaie d'interpréter la révélation de Dieu. Il ne comprend pas trop ce que ça veut dire, mais l'Esprit de Dieu lui donne une autre parole. Il dit, il y a des gens à la porte, c'est moi qui les envoie, pars avec eux et tu vas savoir ce qu'il y en a exactement. Et finalement, Pierre est très brillant. Et je me reconnais dans Pierre quand il fait la démarche suivante. Il descend les marches, parce qu'il était sur le toit, il descend les marches. Il arrive auprès des gens, il comprend toujours pas ce qui se passe. La seule chose qu'il demande, c'est, il va questionner les hommes à la porte en leur demandant qu'est-ce qui les amène pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sur le toit. Et Pierre va dire, quel est le motif qui vous amène? L'apôtre Pierre était en train de processer ou en train de digérer la révélation qu'il avait reçue de Dieu. Il est en train d'essayer de l'interpréter. Il est en train d'essayer de comprendre le sens. Et qu'est-ce qu'il est censé faire avec ça? Et finalement, Pierre part avec les hommes et se retrouve chez Corneille. Et vous vous rappelez l'histoire? Il arrive chez Corneille, rentre chez Corneille, déclare de sa bouche chez Corneille. Vous savez que les Juifs n'ont pas tendance à se mêler avec les non-Juifs, avec les païens. Normalement, je ne devrais pas être ici. Mais Dieu m'a montré quelque chose. Et là, tout d'un coup, les lumières s'allument chez Pierre. Dieu est en train, la révélation qu'il avait eue, dans l'interprétation, il comprend ce qui se passe et l'interprétation est très claire. C'est qu'arrête de déclarer impurs les païens. Ils sont appelés à entrer dans le royaume de Dieu, tout comme les Juifs. Et là, il comprend l'interprétation. Il saisit ça. Et alors qu'il est en train de prêcher chez Corneille avec tous les gens dans sa maison, le Saint-Esprit descend sur les gens dans la maison. Ils sont baptisés du Saint-Esprit, parlent en d'autres langues. Pierre les baptise. Et là, Pierre, sûrement je peux me mettre à la place de Pierre, ça devait travailler. Parce que là, c'était tout un changement de concept. Dieu est en train de lui communiquer un concept qui était pour révolutionner la façon de voir l'Église chez les Juifs. Et finalement, Pierre, après avoir fait tout ce qu'il devait faire chez Corneille, baptise les gens, prend du temps avec eux, il retourne à Jérusalem. Et ça nous dit ceci lorsqu'il est arrivé à Jérusalem. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, c'est-à-dire les Juifs, lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Et Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Et là, il va leur raconter toute la question de la nappe qui descend, il était sur le toit, puis il va tout expliquer dans les mêmes termes, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a expérimenté. Et par la suite, le texte nous dit, « Après avoir entendu cela, les Juifs se calmèrent, ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Donc, vous voyez le processus ici. Pierre est sur le toit en train de prier. Il a faim, il demande à ce qu'on lui prépare à manger. Alors que la nourriture est en train d'être préparée, tout d'un coup, il y a une vision qui est là. Il tombe en extase, il y a une vision, puis il voit une nappe descendre avec des animaux et tout. Il ne comprend pas le sens de la vision. Il ne saute pas aux conclusions. Il veut comprendre ce qu'il y en est. Il réfléchit. Ça nous dit, le texte nous dit qu'il était en train de réfléchir. Il essaie de comprendre ce que Dieu est en train de lui communiquer. Il ne comprenait pas. Mais là, des hommes arrivent. Là, tous les éléments se mettent en place pour mieux interpréter, mieux comprendre. Et finalement, pour arriver à l'application concrète, c'est on doit ouvrir l'Évangile aux païens. Les païens ont accès maintenant au royaume de Dieu. Dieu vient de nous révéler que le salut et que le Messie juif qu'on attendait depuis des siècles n'était pas seulement pour nous, les Juifs, mais c'était pour toute la terre, tous les royaumes et toutes les nations, même les Québécois et les Québécoises. Révélation, application, interprétation, pardon, application. Je prie que par le biais de ce message, la prochaine fois que notre Dieu va vous confier une révélation ou sa pensée, que mes quelques conseils ce matin vont vous aider à y voir plus clair, ils vont vous aider à bien gérer les révélations qu'il va vous donner. révélation, interprétation et application. Je prie que dans cette Église, que Dieu puisse nous donner d'entendre encore plus sa voix, d'être dirigé par son esprit. Je prie que Dieu nous garde, frères et sœurs, d'être une Église qui reçoit des révélations de Dieu. Et parce qu'on gère mal les révélations de Dieu, on prend le champ, on prend le décor, parce qu'on a manqué de sagesse et de discernement. J'aimerais vous dire ce matin, en terminant mon message, le 29 mars dernier, j'ai adressé un sujet bien particulier à l'Église ici, à savoir que dans les prochains mois, les prochaines années, on était pour vivre des années difficiles au Québec. Et je tiens à vous dire que c'est toujours une conviction très profonde dans mon cœur. Je tiens à vous rappeler que le comité de cette Église et l'ELM, c'est-à-dire les anciens, on pourrait dire, de cette Église, et moi-même, de façon unanime, nous croyons que Dieu nous avertit qu'il y a des moments difficiles qui s'en viennent. Et nous avons passé par ce processus ensemble. On a eu la révélation. On avait les révélations qui devaient être, on avait reçues, on les a mis par écrit, on les a analysées. On a pris le temps de les interpréter, de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Qu'est-ce qu'on, et de quelle façon on doit gérer ça? Pourquoi est-ce que c'est vraiment toi qui nous parle? On a tout combattu avec ces idées-là. Et finalement, c'est devenu très clair que l'application, c'est qu'on devait avertir l'Église vie abondante, afin que vous puissiez vous préparer dans la prière, que vous puissiez vous préparer peut-être de façon économique. Peut-être déjà à cause de ce que j'ai apporté le 29 mars, ça vous a aidé à voir plus clair peut-être de ce que vous devriez faire en fonction de l'avenir. Vous aviez des projets, peut-être que vous avez des choses que vous avez mis de côté, vous avez fait des choses différemment. Mais je tiens à vous dire, à vous rappeler qu'on a passé par ça. Et on croit qu'il y a des moments difficiles qui s'en viennent, très difficiles. Et ça tend à se concrétiser. Je sais que présentement, ça va bien, qu'on a eu une certaine vague, que là, c'est comme si ça remonte. Mais c'était justement ce que nous attendions, qu'en 2009, c'était pour augmenter, mais pour mieux redescendre plus tard. Laissez-moi juste vous dire qu'on a passé par ça. On a expérimenté ça ensemble, le comité et l'ELM. En terminant mon message, j'aimerais juste vous dire ce que l'apôtre Paul a dit aux Colossiens. Dans Colossiens 1, je vais vous le lire tout simplement. J'aimerais vous dire ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et je vais le mettre à la première personne. Je ne cesse de prier Dieu pour vous. Je demande que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Je prie que Dieu puisse vous parler davantage. Mais je prie que nous ne puissiez pas trébucher avec ce que Dieu va vous révéler. Amen. Et que vous puissiez être des bénédictions autour de vous et non pas des malédictions et des sujets de tristesse, de division, des choses comme ça. Que Dieu vous donne la sagesse de recevoir la révélation de Dieu, de savoir bien l'interpréter, d'avoir la patience de bien l'interpréter et de l'appliquer de la bonne façon. Et que Dieu puisse se glorifier en toutes choses. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais terminer avec un mot de prière. Alléluia. Père, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui es le Dieu de la révélation, toi qui se plais de parler à ses enfants et de révéler ta pensée à tes enfants, on vient devant toi ce matin, on vient te présenter maintenant nos vies. Je suis convaincu qu'il y a, Seigneur, des dizaines et des dizaines de personnes dans ce lieu, Père, qui ont déjà eu des révélations de ta part, pour d'autres qui rêvent d'en avoir, qui aimeraient en avoir plus. Seigneur, nous prions que tu puisses parler à tes enfants. Et moi, Seigneur, je veux te prier en tant que pasteur et en tant qu'enfant, ton enfant, dire, Seigneur, parle à tes enfants dans cette église. Parle-leur. Alors, dans la mesure qu'ils vont te chercher, dans la mesure qu'ils vont chercher à entendre ta voix et qu'ils vont prendre du temps de qualité auprès de toi, parle-leur. Et Seigneur, apprends-leur à gérer les révélations qu'ils reçoivent de toi. Parce que tu es un Dieu qui se plaît à révéler sa pensée à ses enfants. Parce que tu te plais aussi à collaborer avec nous. Tu aurais pu faire toutes les choses, tu aurais pu faire toutes les choses par toi-même, mais tu te plais à collaborer avec nous et qu'on puisse vraiment être coopérateurs ou collaborer ensemble, Seigneur, et collaborateurs ensemble. Père, je veux te prier, apprends mes frères et mes sœurs Seigneur, parle à leur cœur. Tu dis dans les derniers jours que les gens étaient pour avoir des songes et des visions et des paroles et des révélations de ta part. Fais-le dans cette église, Seigneur. Nous nous soumettons à toi et nous t'invitons à faire ton œuvre. Et nous voulons nous soumettre à toi dans tout cela. Et nous voulons t'honorer en toutes choses. Tu as été, Seigneur, l'élément déclencheur. Tu as été dans nos vies. À un moment donné, il y a eu un élément déclencheur et ça a été toi qui a bouleversé nos vies. Ça a été un point tournant dans nos vies. Et nous voulons, depuis ce temps-là, t'honorer et te glorifier. Et on veut aussi t'honorer et te glorifier lorsque tu nous parles et lorsque tu nous révèles ta pensée. Que cette église puisse être une église qui entend la voix de Dieu et qui fait ce que Dieu lui dit au moment que tu lui dis. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. J'aimerais inviter l'équipe de musiciens.